care about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Fabienne Pascaud et René Solis se font face à notre affiche Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière avec la musique de Lully dans une mise en scène de Clément Hervieux-Léger. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Nous, rêveur définitif au Théâtre du Rond-Point, un spectacle conçu par Clément de Bailleul et Raphaël Navarro. Je passerai en fin d'émission un coup de fil à Perrine Morin pour parler de son nouveau spectacle, Le Problème sans nom, Être Mère, qui sera présenté au Centre Malraux, scène nationale de Vendeuvre-les-Nancy. Puis vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de La Dispute ce soir, des invitations pour la saison Happy Sapiens. 6 nouvelles expositions à découvrir au Palais de Tokyo jusqu'au 11 septembre. Enfin, florilège d'invités de La Dispute cette semaine, florilège avec des inédits dedans ce soir, le metteur en scène Romeo Castellucci. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant aux Bouffes du Nord pour y découvrir la comédie-ballet de Molière et Lully, Monsieur de Pourceaugnac, mise en scène Clément Hervieux-Léger, avec le soutien de William Christie et de ses arts florissants pour la partie musicale, jouée pour la première fois le 6 octobre 1669 pour le divertissement du roi de France Louis XIV. La pièce est donnée pour la première fois en public à Paris au Théâtre du Palais Royal le 15 novembre suivant. Écrite juste après L'Avare, la pièce débute alors qu'Oronte a donné sa fille en mariage à un certain Léonard de Pourceaugnac, bourgeois de Limoges. Mais Julie en aime un autre et les jeunes gens, bien aidés, vont tout faire pour ridiculiser Pourceaugnac et le contraindre à quitter Paris et renoncer à ce projet de mariage.
Quelle heureuse rencontre, monsieur de Pourceaugnac! Je suis ravi de vous voir. Comment? Il semble que vous ayez peine à me reconnaître.
Monsieur, je suis votre serviteur.
Est-il possible que 5 ou 6 années m'aient ôté de votre mémoire? Que vous ne reconnaissiez pas le meilleur ami de toute la famille des Pourceaugnac?
Pardonnez-moi, je ne sais qui il est.
Il n'y a pas un Pourceaugnac à Limoges que je ne connaisse. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je fréquentais que dans le temps que j'y étais, j'avais l'honneur de vous voir presque tous les jours.
C'est moi qui l'ai reçu, monsieur.
Vous ne vous remettez pas mon visage?
Si fait, je le connais pas.
Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire avec vous je sais combien de fois?
Excusez-moi, je ne sais ce que c'est. Mais...
Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère?
Petit Jean.
Et voilà. Nous allions le plus souvent ensemble chez lui, nous réjouir. Et comment appelez-vous à Limoges le lieu où on se promène?
Le cimetière des Arènes.
Justement. C'est là où je passais de si douze heures à jouir de votre agréable conversation. Vous ne vous remettez pas tout ça?
Excusez-moi, je me le remets. Diable emporte si je m'en souviens.
Il y a 100 choses comme cela qui passent de la tête.
Et comment Monsieur de Pourceaugnac commence à se faire embobiner par ces gens qui ne lui veulent pas du bien, Fabienne Pascaud, sur ce spectacle, pour commencer?
Ah, c'est un délicieux spectacle, même si la pièce de Molière est très noire. Là, d'ailleurs, en l'écoutant, on a l'impression que c'est la scène de Don Juan avec Monsieur Dimanche. Hein, de Don Juan date de 1665 et là, de celle-ci de 1669, comme vous l'avez dit. C'était pour les plaisirs de la chasse. Et c'est un fait qu'on a l'impression que ce Limougeau de Monsieur de Pourceaugnac est traqué comme une bête, quoi. C'est ça qui est terrible. On se moque de lui, on le bafoue, il ressort, il va ressortir de cette prétendue comédie sans identité, paumé, perdu, ne sachant plus qui il est. Et ça, c'est très très joliment travaillé, d'autant plus que c'est fait avec gaieté. Alors la gaieté, Clément Hervieux-Léger a choisi de situer la pièce dans les années 50. Alors pourquoi les années 50? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Dans le programme, il s'en explique en disant que dans la France des années 50, on faisait encore une grande différence entre la province et Paris. Différence qui n'existerait plus, qui existerait moins
qui pour lui. Qui n'est plus la même, on va
voilà,
dire.
Voilà, qui n'est plus la même. Et c'est vrai que c'était très marqué. Quelqu'un de Limoges, c'était vraiment le bouseux qui montait. Quoi.
Donc on est dans la France du TGV depuis un certain temps. Ça a changé les choses. Non, mais les distances se raccourcissent.
Exactement.
Avec les moyens de transport.
Exactement. Et donc là, le côté 50 donne une dimension un peu enjouée, les costumes, les lumières et la musique de Lully fait que on est dans un divertissement rare où la musique et le texte se répondent, la danse. Moi, j'ai eu la chance de le voir dirigé par William Christie.
Ça n'a pas été mon cas.
Voilà, donc c'était, il y avait une espèce d'harmonie et tout était dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes possibles, au point peut-être que dans ce délice, la dimension noire de la pièce ressort peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, elle est magistralement interprétée par Gilles Privat, qui est le dindon de la farce, quoi. Ouais. Et ça, il interprète cet être basculé qui ne sait plus qui il est à la fin du spectacle, avec énormément de côté farcesque, mais énormément de désespoir presque kafkaïen à la fin.
Quelle introduction, Fabienne Pascoe. René Solis, monsieur bon, de Pourceaugnac au Bouffe du Nord.
On ne va pas beaucoup se disputer sur ce Pourceaugnac. Il y a quelque chose, oui, sur la gaieté et sur la troupe, il y a quelque chose qui fonctionne très bien entre chanteurs, acteurs, musiciens, une espèce de... On sent qu'ils sont contents d'être là et que les complicités, ils font d'ailleurs des gestes, des clins d'œil qui sont un peu voilà soulignés, mis en scène, mais on sent qu'ils n'ont pas de mal à le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment du... Oui, il y a une bonne, très bonne harmonie, donc du coup, ça réhabilite le genre de la comédie-ballet. C'est vrai qu'on n'a pas si souvent l'habitude. Alors, il y a des gens d'éminents metteurs en scène qui ont travaillé là-dessus. Hein. On se rappelle de Jean-Marie Villégier.
Éric Vignier aussi.
Éric Vignier, c'était... Qu'est-ce qu'il avait fait
Dans le Bourgeois Gentilhomme, la version longue, non
C'est possible, alors je ne l'avais pas vu.
Benjamin Lazare,
évidemment, dont on a parlé ici. C'est plutôt très réussi. Et c'est vrai qu'en plus, la pièce de Molière, qu'on n'entend pas si souvent, elle est incroyable. Elle est d'une violence absolument inouïe. Elle est d'une modernité au sens, en tout cas, où alors oui, il y a Don Juan, c'est vrai, mais il y a aussi quelque chose d'annonciateur du théâtre du 19e siècle, du vaudeville, dans ce qu'il a de plus dur, de plus cruel. Il y a la biche, quoi. Déjà là-dedans, il y a quelque chose comme ça de cette cruauté, y compris sur le rapport entre province et Paris. Donc, moi, j'ai pensé au comédie de la biche, hein, les provinciaux qui débarquent à Paris et ça se transforme en cauchemar. Donc tout ça est présent et c'est vrai que Gilles Privat qui joue Monsieur de Pourceaugnac est absolument formidable. Il est d'une à la fois très drôle, très très touchant en même temps parce que on s'identifie quand même à lui dans cette espèce de naïveté et la façon dont il se fait rouler dans la farine devient épouvantable. C'est vrai que c'est cauchemardesque. Donc tout ça on l'entend. Là où j'aurais un peu plus de réserve, c'est sur l'habillage proprement dit, c'est-à-dire d'abord j'ai cru presque halluciner en me disant mais je croyais être devant un spectacle de Jérôme Savary pas forcément dans ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire dans cette espèce de surjeu d'une époque. Alors oui, les années 50, la fin des années 40, enfin il y a aussi deux trois choses où ça pourrait être l'occupation, hein, il y a la milice, etc. Et cette cette esthétique-là, avec des beaux costumes, avec toute une presque une gestuelle de ça, qui est plutôt très travaillée, moi m'a semblé quand même un peu artificielle. J'étais pas du tout convaincu par la pertinence de ce rapprochement entre et j'avais l'impression quand même d'un effet décoratif qui du coup moi m'a un peu fatigué dans le spectacle. Je me suis dit bon, c'est peut-être pas la peine, mais reste le cœur qui est effectivement la très bonne harmonie entre musique, texte et le jeu des acteurs qui est tout à fait réussi.
Bon, moi j'amène un peu de dispute quand même, parce que même si vous commencez tous deux avec enthousiasme, vous émettez des réserves qui moi m'ont vraiment gêné. Je trouvais le spectacle quand même beaucoup trop univoque, et c'est vrai que j'ai cru quand Gilles Privat comme ça fait son entrée en scène, à un moment donné il est seul, il a quelque chose de tragique, vraiment, et c'est vrai qu'il est extraordinaire dans ce spectacle, et je m'attendais à ce que Clément Hervieux-Léger aille quand même titiller cette veine noire, mais je constatais, je pense que vous aussi, qu'il n'en est rien, et du coup, je trouve que les scènes s'enchaînent, alors avec ce goût du kitsch très assumé, hein, par Clément Hervieux-Léger, pourquoi pas, avec des comédiens qui ont de l'abattage, et donc il y a plusieurs morceaux de bravoure comme ça, mais moi je me suis senti un peu seul quand même dans mon empathie pour Monsieur de Pourceaugnac, qui quand même sadisait pendant 1h45, et du coup voilà, j'étais un peu intrigué par ce choix-là. Il faut quand même par ailleurs dire que ce qui est important, c'est que le soir où je l'ai vu, j'imagine que c'était peut-être sans doute la même chose pour vous, c'était un triomphe absolu, les gens étaient debout à la fin, les applaudissements ont duré très longtemps, donc je ne néglige pas du tout le besoin de divertissement, mais il me semble que, et Clément Hervieux-Léger était plutôt coutumier du fait, qu'on peut quand même amener un peu plus de complexité. Là, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de choix de boulevard, si je puis dire, que j'ai un peu regretté, parce que je trouvais que Gilles Privat, effectivement, amène quelque chose dans son regard, dans son corps.
Oui, mais ça passe quand même noir, à travers de Gilles Privat.
Un petit peu.
Donc, c'est pour ça que la comédie...
On rit de lui.
Oui,
mais dans la salle aussi. C'est ça qui m'a embarrassé, vous voyez.
Mais moi, je trouve que effectivement, je me suis posé les questions que vous vous posez, mais en même temps, la comédie, elle renforce la désespérance de ce type qui devient l'autre avec un grand A et l'étranger, parce qu'il est de Limoges, mais c'est l'étranger à Paris. Donc ça nous renvoie en même temps à des tas de, je dirais pas que c'est un réfugié, mais ça nous renvoie à une problématique qu'on connaît et qu'on vit aussi. Donc c'est pour ça que ça n'en est que plus émouvant.
Ouais, mais quand même, on rit de lui. Et encore une fois, je le dis sale comprise, tout du long. J'ai pas trouvé qu'il y ait de moment ménagé pour lui.
Mais on rit souvent des gens qu'on rejette, hélas.
Oui, mais que le public en soit partie prenante m'a un peu dérangé.
Oui, non, je pense quand même que pas mal de gens s'identifient aussi à lui. Je crois pas que ça fonctionne. Non, là où je suis d'accord avec vous, Arnaud, c'est quand même... Et quand je parlais de Jérôme Savary, qui était capable de faire des choses très bien, mais qui était aussi capable de faire des choses... Du point de vue de la mise en scène, en tout cas, on va dire assez paresseuse, en tout cas assez relâchée. Et j'ai retrouvé un peu quand même ce défaut-là, c'est-à-dire l'idée que l'habillage suffit et que donc voilà. Et je pense qu'il y a des moments de complexité, de rupture qui auraient pu être beaucoup plus travaillés et qui ne sont pas. Mais comme évidemment il y a cette espèce de d'excellence musicale dans la forme, que les acteurs sont bons. Donc ça passe très bien. Donc c'est un spectacle très agréable, très divertissant. Moi non plus, j'étais pas, je veux dire, l'enthousiasme final. Moi, j'ai applaudi deux fois. Je trouvais ça bien. Mais,
non mais voilà. Ce que vous dites, c'est un peu comme les desserts trop sucrés. Vous savez, c'est très très bon les premières bouchées, puis ça écœure un peu quand même.
J'ai peine à jouir. Écoutez, franchement.
Alors là, ça y est, on en est à ce niveau d'argument là, Fabienne Pascaud.
Mais c'est agréable, c'est un divertissement charmant. On entend une musique de Lully exceptionnelle qu'on n'entend jamais. On présente jamais des comédies.
Moi, j'écoute beaucoup de Lully chez moi. Vous voyez.
Oui, vous êtes snob.
Ah voilà, peine à jouir et snob.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, c'est une rareté. Moi, je n'avais jamais vu Monsieur de Pourceaugnac dans cette dimension comédie ballet.
Eh bien, j'aurais aimé le voir meilleur.
On est content quand même.
Non, mais il faut bien que j'amène un peu de sel dans cette
dispute.
C'est vrai.
Et les parties chantées.
Salé.
Les parties chantées sont vraiment très bien. Alors là, il faut le dire, c'est très beau. Hein,
ouais, côté ballet, par contre, on est un peu sur notre
ballet,
fin quand même.
Il y a pas grand-chose, non, à part le ballet de la voiture.
Oui, qui est vraiment qui dure trois heures.
Oui, voilà.
C'est bien de faire entrer une petite voiture italienne, mais elle n'a pas besoin de rester aussi longtemps sur le plateau.
C'est charmant.
Oui, bon, vous êtes...
Oui.
Mais c'est bien, non, mais je suis pour votre indulgence, Fabienne Pascaud, vous qui êtes si souvent cruelle, de mauvaise foi absolue.
Mais là, Cruella est contente.
Cruella est contente. Bah, écoutez, si c'est comme ça, on va pouvoir enchaîner pour dire que Monsieur de Pourceaugnac, cette comédie un peu ballet de Molière, avec cette magnifique musique de Lully, est mise en scène par Clément Hervieux-Léger, que la direction musicale est assurée. Alors, par William Christie, d'une façon générale, ce sont les arts florissants. Mais ce n'est pas tous les soirs, je cherche le nom de l'autre chef qui sursoit quand William Christie n'est pas là. Donc il faut que je le trouve. Et ce n'est pas marqué dans mon programme. C'est Paolo Zanzu qui dirige quand William Christie n'est pas là. Ils se sont répartis la tâche. C'est au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, pour bien rentrer vraiment dans l'été. Et c'est jusqu'au 9 juillet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Nous, rêveurs définitifs, cabaret de magie au Théâtre du Rond-Point. Nous retrouverons avant cela l'invité de la dispute, le metteur en scène Romeo Castellucci. J-5 pour la fin de saison d'Antoine Guillot et de la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Profitons-en. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Et vous l'avez dit, dernière semaine de cette revue de presse. De quoi ne se fera-t-elle pas l'écho dans les temps qui viennent? 9 ans après la parution du dernier livre de la saga Harry Potter, 6 ans après sa sortie au cinéma, Le Sorcier revient cet été à Londres et cette fois-ci au théâtre, nous apprend La Croix. Les fans de l'univers de J.K. Rowling retrouveront Harry 19 ans plus tard, marié et père de 3 enfants, dans une mise en scène de John Tiffany, en collaboration avec l'écrivain. Avec 175 000 places vendues en 24 heures, cette pièce, Harry Potter et l'enfant maudit, qu'on verra au Palace Theatre à partir du 30 juillet, s'annonce être un véritable succès. En sera-t-il de même pour cette star hollywoodienne qui projette de monter sur les planches françaises? Selon les informations de Thierry Dag, à nouveau dans le Parisien, le Théâtre de Paris est en pourparlers avec Sharon Stone pour que l'actrice vienne donner dans la capitale une série de représentations exceptionnelles. Le projet devait aboutir en septembre prochain, mais ne se fera pas finalement avant 2017 pour des raisons de calendrier et de contraintes techniques, confirme Richard Kaya, le directeur du théâtre, qui ajoute, prudent, rien n'est encore signé. Elle est très heureuse de ce projet, confie le responsable de cette salle de 1000 places, l'une des plus vastes de Paris. Même si beaucoup de paramètres restent à régler, je suis convaincu que cela peut être une aventure magnifique. L'icône américaine serait dirigée par le metteur en scène français Jérémy Lipman, qui avait triomphé avec La Vénus à la fourrure, couronnée de 2 Molières en 2015. Sharon Stone a choisi une pièce accessible au public français, puisqu'elle y jouera un personnage quasiment muet, en anglais donc, mais avec très peu de texte. La star de Basic Instinct incarnerait une femme d'aujourd'hui confrontée à la solitude en milieu urbain qui fait le bilan de sa vie, résume Richard Kaya. On la découvrira sous un nouveau jour. Une création mondiale d'autant plus événementielle qu'elle marquerait les débuts au théâtre de l'actrice de 58 ans. L'idée de faire ses premiers pas sur scène à Paris lui plaît beaucoup, souligne Richard Kaya. Elle a une cote énorme en France. Je suis sûr que ce sera une révélation. Une révélation là encore et rebondissement dans un feuilleton qui nous a beaucoup occupé ici. 4 mois après sa démission du poste de directeur de la danse à l'Opéra National de Paris, Benjamin Millepied rejoint la fondation Luma de la mécène suisse Maya Hoffmann, basée à Arles, a-t-on lu dans Le Monde. La compagnie de Benjamin Millepied, le LA Dance Project, y sera accueillie en résidence pour 3 ans et y présentera du 7 au 13 juillet, puis du 23 au 25 septembre, un programme de pièces courtes à la Mécanique Générale au Parc des Ateliers. Je suis très heureux d'être associé à la programmation de Luma Arles dès sa conception, a déclaré le chorégraphe samedi 11 juin. Nous avons ainsi une base en Europe qui nous permet de travailler, réfléchir et interagir avec d'autres artistes invités et événements produits par la Fondation. En parallèlement, Millepied est programmé dès septembre avec sa troupe au Théâtre des Champs-Élysées à Paris dans le cadre du festival Transcendance, un agenda très rempli donc qui explique peut-être pourquoi il a au printemps renoncé coup sur coup à ses 2 créations. Révolution, programmée à l'Opéra de Paris dans la saison 2016-2017. Quel donneur de leçons, ce Benjamin Millepied, tacle Emmanuel Boucher dans Télérama, avec sa façon d'annoncer la Révolution, promettant dès 2013, avant même de s'asseoir dans les velours de Garnier, d'inviter nombre de compositeurs et plasticiens contemporains à créer pour le ballet, comme si ça n'était pas le cas avant. Alors, quand Millepied renonce à cette soirée qu'il avait imaginée à quatre mains avec le plasticien Philippe Parrainaud et vendue comme le nec plus ultra de son ambition de modernité, on rit jaune. La raison invoquée, il retourne vivre à Los Angeles avec son épouse Nathalie Portman quand Parrainaud, lui, habite Paris. Pas pratique, en effet. Que dire de l'annulation d'une pièce plus courte sur les chansons de Barbara, dont la création était prévue avec l'étoile Marie-Agnès Gillot pour enluminer l'affiche des fêtes. C'est rude, non, voire pas sympa, alors qu'en février, malgré l'abandon de sa tâche trop lourde de directeur, rendez-vous compte, 154 danseurs, 164 représentations dans deux théâtres différents, il se déclarait heureux de poursuivre comme chorégraphe dans la maison. Démissionner comme chef passe encore, mais déclaré fort fait comme artiste, ce n'est guère élégant à l'égard du ballet qu'il a d'abord superbement accueilli. Emmanuel Boucher, cette fois sur le site internet de Télérama, est beaucoup plus positif sur le projet de Maya Hoffman, qui rêve d'un lieu de travail, d'émergence et de diffusion mêlant art plastique et art vivant, telles les universités d'été de ce fameux Black Mountain College de Caroline du Nord, qui dans les années 50 a permis aux Américains d'inventer des croisements fertiles. Le chorégraphe Merce Cunningham, les compositeurs John Cage ou David Tudor et le plasticien Robert Rauschenberg, par exemple, y fusionnèrent dans l'art de la performance. Toute proportion gardée, quant à la référence, la nouvelle ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Oyez, oyez, la Fondation Luma s'intéresse au spectacle vivant et sur ce territoire de festival dédié à la création, Avignon, Uzès Danse, Montpellier Danse et autres, cela peut intéresser plus d'un artiste ou d'un producteur. Ce sera donc à suivre d'une manière ou d'une autre.
Merci, cher Antoine. Alors, Benjamin Millepied, Emmanuel Boucher a fait un très bon papier. Vous avez bien fait de le citer. C'est quand même pas pour sa grandeur, ces histoires avec l'Opéra de Paris, parce que ces annulations, ces renoncements coup sur coup, heureusement qu'Aurélie Dupont, elle travaille à et pour l'Opéra de Paris, contrairement à lui qui travaillait beaucoup pour lui. S'il y avait un doute, quand même, on le sait maintenant, Fabienne Pascoe.
Ah oui, moi je trouve ça honteux.
On est d'accord. Vous voyez, nous sommes en phase.
Voilà, nous sommes tout à fait en phase et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'écrit Emmanuel Boucher, bien entendu. Mais non, je trouve ça que Stéphane Lissner ait pu se tromper à ce point-là sur l'homme, c'est compliqué, quoi. C'est fou. Qu'il ait pu tromper son monde simplement à cause de l'aura de Nathalie Portman, c'est quand même étrange.
Oui, les paillettes parfois aveugles.
Voilà,
c'est
tout
ça
à fait.
Paul Solis, vous regardez ça de plus loin, vous, mais quand même.
Oui, non, moi je préfère ne pas opiner parce que j'ai pas suivi de très près le dossier, donc je pas grand chose à
pas
dire
sur Benjamin
Millepied et pas de commentaires
particulier. Bon, nous trouvons ça honteux. Voilà, je retiens votre mot et on le répétera. Par contre, je voudrais savoir, René Solis, si vous avez envie d'aller voir Sharon Stone sur scène.
Oui, alors j'ai toujours pas très bien compris. De quoi il s'agissait en fait.
Qu'est-ce qu'elle a écrite un peu, non?
Si ce n'est que Sharon Stone serait au théâtre, donc j'enregistre l'information, mais je n'ai pas très bien compris exactement vraiment pour jouer quoi.
Un rôle quasi muet sur l'histoire d'une vie.
Un rôle quasi muet, c'est ça?
Je pense que personne ne l'a compris et que les négociations sont en cours.
Hein.
Oui.
Ouais.
D'accord, bon, ben voilà, donc. Bon.
Moi j'irai, moi j'ai une tendresse particulière pour Sharon Stone.
Elle est belle quand même.
Elle est belle, elle dégage quelque chose quand même.
On est d'accord, mais
on est curieux de voir ça.
L'exigence, je sais pas, artistique et
au théâtre de Paris,
au centre du projet, donc.
Bon, à suivre en tout cas pour ces différentes nouvelles. Harry Potter, vous suivez ça, René Solis?
Non,
vous dites oui.
Je m'étonne presque que c'est pas été fait avant. Et j'imagine qu'il y a le musical doit être quand même. Il y a pas mal de gens qui rêvent de le faire. Hein, donc c'est normal de dire que tout ça soit décliné. Alors effectivement, la pièce visiblement, qui est complètement décalé, parce que s'il est marié, qu'il a trois enfants et que c'est 20 ans après...
C'est Peter Pan, mais...
Imaginé, mais je veux dire, je pense que Harry Potter n'a pas fini d'être exploité et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de filons à creuser. Donc,
mais ouais. C'était déjà au théâtre auparavant, Harry Potter, à Londres ou ailleurs? Non, jamais
je crois pas.
Non, au cinéma, oui, mais ça ne m'avait pas tout à fait échappé. Des fois, je suis dans une caverne, mais quand même, ça, j'avais suivi à peu près, mais pas d'adaptation.
Ça n'avait
pour
pas
l'instant.
Eu une comédie musicale déjà.
Déjà bon, ouais. Ça viendra bien par Paris, d'une façon ou d'une autre. Bon, on va suivre tout cela, tout ce dont on parlera ou pas, à l'avenir, sans revue de presse, mais on en parlera peut-être quand même. Dans quelques minutes, ce qui est sûr, c'est que nous allons parler de Nous, rêveurs définitifs, au Théâtre du Rond-Point. Avant cela, nous retrouvons le premier invité de la dispute de notre semaine de Florilège. Et ce premier soir, nous le passons en compagnie de Romeo Castellucci.
Enchanteur, comment allez-vous? Très bien, merci.
Romeo Castellucci, votre emploi du temps est très chargé, mais est-ce que vous avez le temps, l'envie, ça j'en doute pas, le temps d'aller voir le travail des autres, que ce soit au théâtre, à l'opéra, la danse?
Oui, quand c'est possible, oui, bien évidemment. Je suis très intéressé à... En général, à tout ce qui se concerne l'imagination dans n'importe quel champ. Donc oui, j'aime bien.
Le théâtre, ça a commencé pour vous très jeune, parce que c'est vraiment un souvenir d'enfance ou un moment qui se passe dans l'enfance qui donne votre envie de faire du théâtre.
J'ai commencé à l'école primaire quand j'ai découvert le plateau. C'était... dans l'école que j'ai joué pour la première fois. Et mon premier personnage, c'était un petit souris. Et voilà. Et ça, c'était la première rencontre avec le théâtre. Et après, voilà, j'ai vu autre chose, mais je suis retombé, disons, dans cette esthétique seulement dans mon adolescence. Quand j'ai découvert le travail de Carmelo Bene, qu'il avait choisi pour quelques bizarres raisons ma ville pour faire toutes les répétitions. Donc moi, comme un petit souris, j'allais au théâtre pour cacher, évidemment, parce que j'avais peur de cet homme, pour voir les répétitions. Et voilà, donc c'était un moment, une sorte de printing dans mon esprit.
Vous avez ensuite été quelques fois sur le plateau, il n'y a encore pas si longtemps, dans Inferno. Le fait d'être sur le plateau, parfois, vous, qu'est-ce que ça change dans votre façon de mettre en scène, de savoir ce que c'est qu'être un corps sur un plateau?
Oui, non, moi, je vais commencer comme un acteur, effectivement. Mais après, je me suis rendu compte que c'est autre chose, il y a un autre rapport, c'était impossible d'être dedans et dehors en même temps. Par contre, je suis obligé, dans certains cas, d'être sur le plateau, justement pour être un signe de contradiction du spectacle même, du jeu, du théâtre. Donc, dans ce cas-là, je suis sur le plateau comme un metteur en scène et pas comme un acteur. Je ne suis pas un personnage, mais je suis moi-même. Et normalement, c'est pour détruire, entre guillemets, la personne et l'artiste. C'est toujours quelque chose qui n'est pas du tout l'affirmation de l'artiste, mais c'est plutôt sa contradiction. Donc il faut disparaître dans la scène. Donc chaque fois, ce n'est pas une façon de se mettre en jeu, c'est plutôt une façon de disparaître face à les autres.
Est-ce qu'il y a des spectacles de théâtre qui vous ont marqué, vous, Romeo Castellucci, qui ont pu... de théâtre ou de danse d'ailleurs aussi, qui ont pu influencer votre travail ou le nourrir?
Mais pas forcément des spectacles de théâtre, je dois dire. J'ai quelques expériences, oui, comme je l'ai dit, Carmelo Bene, même si au niveau de l'esthétique, c'était un univers totalement éloigné de moi. Il s'agissait en ce cas-là plutôt de la philosophie. Et donc de considérer chaque élément du vocabulaire du théâtre, de la scène, extrêmement problématique. Donc, à travers Camero Bene, j'ai appris la discipline, peut-être, et la sévérité, si vous voulez, si on veut utiliser ces mots, de chaque élément. Derrière chaque choix, il y a même une responsabilité, si vous voulez, mais aussi, il y a un aspect de perversion. Donc, moi, j'ai appris ça. Et au niveau esthétique, il y a eu des choses peut-être qui sont plus anonymes, des rencontres que j'ai faites par hasard. Il y avait un autre groupe en Italie, qui s'appelait Magazzini Criminali, de Florence, qui m'a marqué beaucoup, par exemple. Je me souviens marqué très profondément du travail de Bob Wilson, surtout les premières choses que j'ai rencontrées à travers des films, des photos, des choses comme ça. À l'époque, on repérait les choses à travers les livres, les photos et la légende, non, bouche-oreille. Ça marchait un peu comme ça. L'autre chose qui m'a marqué profondément, c'est, au contraire, c'était un livre de Grotowski, Per un teatro povero. Les photos, en particulier. Quand j'ai commencé avec un groupe, la Raffaello Sanzio, donc c'était très important d'être ensemble. Mais je me souviens qu'on a passé des journées entières à discuter. La discussion, c'était le pilier de notre travail, la théorie.
Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant en nous rendant au Théâtre du Rond-Point à Paris pour y découvrir un cabaret magique. Nous, rêveurs définitifs, conçus par Clément de Bailleul et Raphaël Navarro, qui ont fait ici appel à différents talents pour composer le programme de ce spectacle, alternant magie, danse, jonglage, illusion en tout genre, et deux musiciens de part et d'autre du grand plateau de la salle Renaud Barreau. Difficile évidemment d'avoir un extrait musical qui est magical et magique en même temps. Mais la musique elle est importante. C'est peut-être pas d'ailleurs le morceau que je préfère, mais par contre j'ai trouvé et la pianiste et le garçon qui joue différents instruments et qui parfois aussi chante étaient extrêmement talentueux. Je commence par là, mais c'est pas tout à fait le propos. Mais vous me regardez Fabienne, mais là c'est au tour de René. J'alterne. J'alterne les débuts, vous savez.
Non, parce que moi j'ai trouvé qu'il y en avait trop de musique, mais bon.
Bon. Vous en parlerez tout à l'heure. René Solis, pour commencer, on vous a envoyé voir un cabaret magique.
Oui, oui, alors je m'en doutais un peu, mais je l'ai vu pour la première fois. Donc il existe comme il existe, il a existé un nouveau cirque. Alors, le nouveau cirque en question a quand même au moins 25 ans. Mais,
oui. Une magie nouvelle.
Donc
maintenant.
Il existe une magie nouvelle, etc. Bon, dont acte, au rond-point. Donc effectivement, c'est pas, on n'est pas dans les numéros de prestigitateurs de cabaret, on est dans quelque chose qui est une forme un peu plus ambitieuse, qui se pose d'entrée comme poétique, hein, c'est ça la référence, les nous rêveurs définitifs. Alors j'avoue que je suis toujours un peu perplexe par rapport à Je devrais, moi qui aime beaucoup évidemment les formes hybrides, les choses qui dont on peut pas vraiment définir dans un cadre ou dans un autre, je devrais complètement adhérer au projet. Et j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que je trouve que tout ça est malgré tout un petit peu trop souligné, un peu trop fabriqué, un peu trop. Alors, il y a des éléments, oui, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a une espèce de volonté de déconstruction qu'on retrouve aussi beaucoup, qu'on a beaucoup vu dans les spectacles de Nouveau Cirque, cette façon d'introduire du deuxième, du troisième degré par rapport au numéro, par rapport au spectaculaire. C'est pas que c'est mal fait, c'est juste que moi je m'en lasse très vite. C'est-à-dire que il y a quelques moments que je trouve, il y a un très beau moment en particulier, moi c'est celui qui m'a le plus plu, qui est effectivement plutôt assez léger, comme ça, assez poétique, qui est une espèce de combat avec des méduses, qui sont des sacs en plastique avec un trucage sur ces sacs en plastique et des jeux de lumière. Et il y a là tout d'un coup 3 minutes d'un combat perdu face à ces formes comme ça.
Ces formes, elles volent au-dessus de nos têtes dans la salle, sans bruit, sans qu'on comprenne très bien.
On ne sait pas très bien ce que c'est, donc il y a comme ça des espèces de voilà. Et des ectoplasmes, on peut dire, des lucioles et des ectoplasmes. Bon, tout ça, c'est pas mal. Mais il y a quand même, je trouve, un effet, moi, très vite, j'ai très vite fatigué, en fait, parce que il me semblait que il y avait cette espèce de volonté incroyablement insistante de nous dire, de nous faire sentir qu'on n'était pas sur l'exploit, mais sur la poésie, la finesse, la délicatesse, etc. Et cette façon même de le souligner, moi, m'a semblé plutôt très lourde. Donc, j'ai pas du tout fonctionné, en fait, à tout ça, et j'en venais à regretter presque les bons vieux tours et le premier degré. Mm-hmm. Donc là il y a quelque chose qui m'a laissé un peu perplexe, pour tout dire.
Alors Fabienne Pascot, trop de musique, déjà ça on avait retenu, mais pas seulement.
Oui, non, moi je suis plus indulgente que René, mais je trouve que les numéros, les vieux numéros, ils y sont, mais ils sont transcendés quand même. Yann Frisch, qui est notre champion de magie 2012 du monde.
Close-up.
Exactement. Ce qu'il fait avec les cartes et ce qu'il fait avec ses petites boules rouges, ça pourrait être des choses très anciennes, de manipulation classique, mais il arrive à nous perdre et ça devient absurde et ça devient kafkaïen encore une fois, et ça devient une quête du vide. C'est presque Beckett à la limite qui apparaît sur le plateau. Et toutes ces formes qu'on voit, qu'on devine, c'est la mort aussi, c'est des âmes errantes, des âmes mortes. Donc ils arrivent à jouer avec le jeu de manière totalement funèbre et crépusculaire dans cet espace très noir du plateau, avec très peu d'accessoires, une lumière un peu morbide. Donc moi c'est ça que j'ai aimé. Ce côté, le déséquilibre permanent entre la mort, la vie, le plaisir, la curiosité, la peur. Et je trouve qu'ils y parviennent parfaitement bien. La seule chose, c'est que la logique du numéro est hélas trop gardée. Ils arrivent peut-être pas totalement à travailler ensemble. Ça reste une suite.
Oui, pour le coup, le sous-titre, c'est Cabaret Magique. Et voilà. De fait, il y a cet effet cabaret, succession de numéros.
Exactement. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait une osmose plus entre eux. Mais bon, c'était sûrement pas possible, puisque l'enjeu, c'est Cabaret Magique.
Alors, je crois que c'est une commande de Jean-Michel Ribes à Clément de Bailleul et Raphaël Navarro de faire cette soirée. Donc, ils ont été chercher d'autres talents que les leurs, parce qu'ils ont une compagnie.
Ils ont une danseuse exceptionnelle.
Ils ont une danseuse très étonnante aussi.
On ne sait pas si elle vole ou si c'est formidable.
Alors, qui défie les lois de la gravité.
Exactement. Qui s'appelle Ingrid Estar.
Oui,
très bien. René Solis.
Tout ce que vous dites est sans doute vrai, Fabienne. Et en même temps, comment vous dire, à partir du moment où j'ai l'impression que c'est tellement souligné, volontarisé, que affirmer que ce qu'on recherche c'est les purs, à partir du moment où on l'affirme trop fort, c'est déjà un peu raté.
Mais ils cherchent tellement les purs.
Parce que quand ils font des
vieux clowns grotesques avec Yann Frisch qui ressemble un peu au qui a les mêmes yeux que le nain de Game of Thrones.
Oui, mais on a
c'est votre obsession, Fabienne.
Ils essayent de d'enlever un maximum de gestes, de faire que ce soit le plus pur possible.
Ce qu'a pu faire le nouveau cirque, pour le coup.
Ce qu'a pu faire le nouveau cirque, mais on peut dire que ce qui a été aussi peut-être la recherche de quelqu'un comme Bartabas, etc. Mmh. Mais là, je trouve que c'est presque comme un procédé. C'est-à-dire que ça, je sais pas où sont les artistes réellement là-dedans. J'ai l'impression que le procédé est tellement, justement, alors c'est paradoxal, mais on le voit trop. Il y a quelque chose de la part
moi,
de ces magiciens
qu'on voit trop. Je ne sais plus où est la réalité à force de jeu, d'illusionnisme et de prestidigitation. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux.
Mais d'autant que le rythme, il est quand même cassé, René Solis, parce qu'il y a ce moment qui s'appelle Entracte, qui n'en est donc pas un, où Yann Frisch et Éric Antoine sont tous les deux en scène pour faire quelque chose de, pour le coup, très cabaret, qui est quand même le moment où le public exulte le plus, moi compris, parce que moi j'ai vraiment marché à ce moment-là. Je trouve qu'ils ont beaucoup, enfin, un sens de la répartie très fort, donc c'est une prise à partie du public avec intervention, on fait deviner la carte qui est cachée, enfin bon, il y a tous ces vieux trucs pour le coup de la magie, sauf que on comprend toujours quand même pas comment ils font, hein.
C'est
même avec trois cartes, même avec une carte, c'est absolument invraisemblable ce qu'ils font. Et je trouve que c'est ce moment-là, du coup, vient mettre à mal votre ressenti, René Solis, parce que là, on est vraiment dans le cabaret à l'ancienne, mais modernisé, parce qu'il y a un humour qui est un humour d'aujourd'hui.
Et dans l'hybride.
Et dans l'hybride, pour le coup, parce que Yann Frisch, il fait à la fois ce numéro de clown névrotique ou psychopathe, avec une corporalité qui est quand même incroyable, parce que effectivement c'est le bonneteau, quoi. Il y a les gobelets, les boules rouges, et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Il y en a une, il y en a deux, il y en a dix, il n'y en a plus. Enfin, et il le fait avec une gestique très impressionnante, assis à une table, comme ça, sur le grand plateau du rond-point. Puis c'est quand même un peu gonflé de faire une chose pareille, parce que quand on est champion du monde du close-up, donc ça veut dire du rapproché, faire ça dans une grande salle, c'est un peu casse-gueule. Et je trouve qu'il y réussit parfaitement, parce qu'il le fait avec une énergie, un investissement. Il a un personnage extrêmement singulier, Yann Frisch.
Ils arrivent à rendre leur mystère aux choses, quoi. Les choses ont une âme, le moindre petit mouchoir, le moindre petit gobelet, le moindre petite balle, tout ça. Les accessoires finissent par avoir une vie propre.
Oui, mais ça, c'est assez étonnant. Encore une fois, si ce jeu avec les accessoires, s'ils annoncent d'entrée que, attention, ce mouchoir est un mouchoir poétique, etc.
Mais si,
dans la façon de bouger dans leur corps et tout, il y a une volonté permanente de poétiser les choses. Et c'est cette volonté de poétiser les choses qui, moi, me semble, qui fait que je peux pas marcher. J'aime les choses peut-être plus, à la fois plus naïves et plus, oui, d'une certaine façon.
Enfin, on voit que c'est pas des comédiens.
Non, mais c'est pas.
On le voit, ils le cachent pas.
Et puis
il y a
quand même des numéros qui sont carrément pas bons. Les hologrammes,
vous
c'est pas bon.
Un peu.
C'est
pas bon.
Les hologrammes.
Mais c'est si avec l'écran, moi j'ai trouvé ça mais que c'était pas mal.
C'est de la vieille lanterne magique et dont la technologie apporte pas grand chose.
On sort de l'écran.
Oui, on rentre, on sort de l'écran. Non.
C'est un peu long. Voilà,
Que c'est comme dans le cabaret, il y a des numéros plus ou moins réussis. Moi, pour le coup, les passages plus poétiques, j'ai trouvé un tantinet longué. C'est vrai que la méduse dont vous parlez, ça va, mais ça dure un peu trop longtemps, comme le jonglage de boules phosphorescentes, c'est un petit peu long aussi. Enfin, voilà. Tout est un tout petit peu long. On est d'accord là-dessus, on va faire ce diagnostic.
Oui, allez.
mais nous, on n'a pas vu ces mêmes intentions.
Fabienne et moi, nous avons
été bons spectateurs sur ce coup-là.
Oui, comme souvent, finalement.
J'étais moins peine à jouir sur celui-là, c'est ça ?
Voilà, pas du tout.
Bon, moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir un spectacle. Le rond-point, quand même, saluons encore ce théâtre qui propose quand même des choses variées. Peu habituelles, variées.
Oui, oui. Non,
parce que le retour de la magie dans le théâtre public, on l'attendait. Enfin, le retour ou l'arrivée de cette magie-là. Oui, là, c'est lui qui fait la fine bouche. D'avoir Rendez-vous Gare de l'Est de Guillaume Vincent.
Préfère aller à Valenciennes.
On va en parler dans un instant, mais d'avoir Rendez-vous Gare de l'Est de Guillaume Vincent, dont j'ai déjà reparlé la semaine dernière, dans une salle, d'avoir cette magie nouvelle dans une autre, et je ne sais plus qui est à l'affiche, pardon, c'est plus Claude Perron, Brûlez-la, qui est un spectacle magnifique. C'est quand même le bonheur d'arriver dans l'été avec ce type de programmation. Spectacle pour petits et grands, je le dis pour Antoine Sainte-Guillaume s'il a encore quelques soirées ou matinées de libre avant les grandes vacances. Mais vous pourriez y aller tous en famille. C'est quand même bienvenu d'avoir ce type de spectacle. Celui-ci donc s'appelle Nous, rêveurs définitifs. Il est co-signé Clément de Bailleul et Raphaël Navarro. C'est au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 3 juillet, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Et comme c'est la dernière dispute théâtrale de cette saison, on prend peut-être un peu d'avance d'une part sur le Festival d'Avignon et puis d'autre part une recommandation. Tiens, on va commencer par vous, Fabienne Pascot, au Théâtre de la Huchette.
Oui, c'est un délicieux spectacle qui s'appelle La Poupée Sanglante. Donc évidemment, c'est un petit peu effrayant. C'est inspiré de Gaston Leroux. C'est une histoire de vampires, de savants fous à la Frankenstein. Mais c'est réduit à 3 personnages, alors qu'il doit y en avoir une 50aine. C'est accompagné très joliment au piano par Didier Bailly, qui a composé des mélodies charmantes. Et bref, c'est un petit miracle que sur cette microscopique scène de la Huchette, 3 comédiens, chanteurs et un pianiste arrivent à nous faire voyager dans l'univers fantastique de Gaston Leroux avec plaisir et effroi. C'est délicieux.
Bon, parce que La Poupée Sanglante, moi j'ai des souvenirs, ça m'a traumatisé dans la série télévisée quand j'étais petit. J'ai des souvenirs horribles.
Ah, il y a quelques monstres quand même.
Oui.
La frayeur est un peu là, bon. Oui. Mais doucement, insidieusement.
C'est jusqu'à quand,
Fabienne Pascot? C'est tout l'été.
Ah ben voilà, on peut aller à la Huchette. Très riche pour aller voir la Poupée Sanglante à la Huchette. Et puis un spectacle dont on va forcément beaucoup parler, et qui sera en tournée toute la saison prochaine, mais qui a fait ses premières représentations à Valenciennes, à la scène nationale de Valenciennes. On en parlait avec son directeur la semaine dernière. C'est 2666, d'après ce roman Fleuve, Gigogne, Monstre de Roberto Bolaño. Le roman était aux éditions Christian Bourgois pour la traduction française. Donc c'est Julien Gosselin qui signe ce spectacle. Julien Gosselin, on l'avait découvert en Avignon, voici deux ans peut-être maintenant, avec une adaptation de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq à l'affiche du Palais de Tokyo, ça on en parlera une autre fois. Michel Houellebecq, c'était Les Particules élémentaires, un spectacle qui a été beaucoup vu, qui a beaucoup tourné. 2666, ce sera à Avignon, mais vous l'avez déjà vu à Valenciennes. Alors, c'était la deuxième représentation, c'est un spectacle qui dure d'ores et déjà 12 heures avec 4 entractes. On imagine qu'il y a encore beaucoup de choses qui risquent de bouger. Donc ce sont plus des impressions qu'on a envie d'avoir, parce que vous connaissez bien cette littérature-là, ce monde-là géopolitiquement littéraire, et ce roman de Roberto Bolaño. Vos impressions, René Solis?
Alors il tient le pari, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un spectacle qui dure 12 heures, il tient le pari de prendre le roman dans son intégralité, évidemment pas, mais les 5 parties, ils respectent la trame du roman, est tout à fait respectée, tenue.
Une trame est même complexe, hein, parce qu'on va d'enquête en enquête, personnages.
Il y a quelques choix, il en a enlevé, mais il y a le roman est là, incontestablement, et il y a quelque chose. Alors apparemment, entre la première et le premier week-end et le deuxième, il y avait déjà eu des il a resserré, il y a des choses de rythme, donc j'imagine que d'ici Avignon, ça va changer. Il y a quelque chose en particulier qui peut changer sans trop de mal et qui, à mon avis, ferait beaucoup de bien au spectacle. C'est un spectacle qui est incroyablement crié par les acteurs, extrêmement véhément dans son ton, comme s'il fallait à tout prix montrer que le roman est effectivement terriblement grave, mais il y a une façon de s'adresser aux spectateurs comme ça, avec un volume sonore très élevé qui est, bon, je pense que...
Ça, moi, j'ai du mal avec ça, vous m'inquiétez là.
Tout intérêt à réduire ça.
Ouais.
Et pour le reste, oui, alors moi j'avais trouvé que le spectacle, l'adaptation de Houellebecq était... ce qui était bien, c'est qu'il y avait une espèce de ferveur, on sentait qu'il avait une admiration profonde pour le roman et qui transmettait quelque chose de cette ferveur-là, et ça c'était plutôt bien, et puis c'était bien fait, et là aussi c'est plutôt bien fait entre guillemets, mais il y a pour moi quelque chose qui est en même temps un travail de
C'est incroyable. C'est du théâtre très très frontal et très lisse. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu dans un entre-deux, à la fois de restitution du roman, mais il n'ose pas réellement incarner les personnages ou choisir des histoires et en faire quelque chose. Et donc il y a quelque chose une espèce de déroulé des choses, de l'histoire et de l'anecdote finalement, et un traitement assez anecdotique aussi de tout ça, y compris dans le jeu, dans les acteurs. Alors il y a deux, trois moments très réussis. Il y en a un particulier, le début de la troisième partie, le centre du roman et du spectacle, la partie de fête, et ça commence par le discours dans une église noire américaine d'un prédicateur qui est un ancien Black Panthers et qui fait l'éloge de la morte qui est la mère du journaliste qui va se rendre au Mexique. Et il y a 10 minutes, l'acteur qui fait ça, lui incarne complètement le prédicateur américain, et ça c'est formidable. Mais des moments comme ça, il y en a finalement très peu, et on est beaucoup dans un entre-deux assez caricatural, je dois dire. Et finalement, on est quand même évidemment très 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 loin du niveau de ce roman totalement extraordinaire, roman culte, roman incroyable, roman totalement alors polyphonique justement, avec des mélanges de styles. Et là, on est dans quelque chose qui est au contraire incroyablement uniforme et univoque dans le traitement.
Bon, mais là, c'était la deuxième représentation d'un spectacle qui va certes bouger.
Oui. Non. En plus, il faut quand même le reconnaître.
Il y a un geste, quoi.
Le geste, la capacité
l'audace
à tenir.
De s'attaquer à ce roman.
En fait, c'est pas ennuyeux. Donc, je pense que, y compris des gens qui connaissent évidemment pas le roman, auront envie de le lire.
C'est formidable.
C'est intéressant. C'est pas du tout à périr d'ennui c'est pas raté. C'est juste que.
Vous avez des réserves pour l'instant vous avez énoncées qui sont pour l'heure forte, mais voilà, c'était vraiment c'est les prémices, hein, deuxième représentation pour un spectacle de cette ampleur. Il y a certainement beaucoup de travail encore, et puis ce spectacle, il va tourner toute la saison prochaine. Je crois qu'il ouvrira les ateliers Berthier, le théâtre de l'Odéon, au mois de septembre, et puis il parcourra la France. Moi, je suis très impatient quand même de découvrir ce spectacle. Alors, il ne faudrait pas trop l'être, il faudrait peut-être attendre quelques représentations, Fabienne, mais bon, c'est notre travail aussi d'aller voir au plus vite.
Oui.
Bon, nous irons voir 2666. Ben voilà, on s'arrête là pour cette séquence.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et on va conclure l'émission par un coup de fil passé à Perrine Moret. Avant cela, le jeu de la dispute. On commence, Antoine Guillaume, par un retour sur le jeu de vendredi soir.
Qui vous a fait gagner des DVD de ce très bon film qui est Mad Love in New York des frères Josh et Benny Safdie, distribué par Carlotta. Je vous avais demandé quel autre cinéaste new-yorkais a assuré la coécriture et le montage de ce film. Eh bien, il s'agissait de Ronnie Bronstein, le réalisateur de Frontland.
Ce soir, nous avons gagné des invitations pour la saison Happy Sapiens. 6 nouvelles expositions, dont celle de Michel Houellebecq, à découvrir au Palais de Tokyo jusqu'au 11 septembre, la question.
Eh bien, puisque vous en parlez, qui figure sur l'affiche de l'exposition de Michel Houellebecq, Restez vivant?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Place au présent, à présent, au coup de fil de la dispute. Et ce soir, j'appelle Perrine Morin qui présentera sa nouvelle création, Le problème sans nom, être mère, à la scène nationale de Vendeuvre-les-Nancy. C'est un projet qui est issu d'un travail collaboratif, puisque pendant 6 jours, 12 volontaires, professionnels du théâtre ou amateurs, se réunissent sous la forme d'un atelier pour créer le contenu chorégraphique de cette pièce avec la chorégraphe Marie Cambois, qui est là également, on va en parler. Et puis parallèlement à ces gestes, Perrine Morin, vous diffusez votre enquête sonore composée d'interviews de mères qui ont accepté de parler de leur quotidien de mère au micro, le but étant de définir ce qu'est être mère, avec peut-être quelques remises en question de certains clichés ou préjugés, longue introduction, mais pour vous, ça commence comment ce projet, Perrine Morin ?
Ça commence par être mère, tout simplement. Il y a 4 ans, en fait, voilà, j'ai découvert que ce que je ne connaissais pas, être mère, qui était pour moi une évidence, une fonction assumée depuis la nuit des temps, et ben, en fait, était d'une complexité folle. De manière très intuitive, dans le cadre de la résidence que nous avons avec la compagnie Les Patries Imaginaires que je dirige ici à la scène nationale de Vendeuvre-les-Nancy, j'ai commencé à réaliser cette enquête sonore très spontanément, sans trop savoir ce que j'allais faire de ces entretiens. Puis assez vite, je me suis dit qu'il y avait une matière très belle pour faire un spectacle chorégraphique et sonore. Et donc voilà, j'ai lancé cet appel à participation auquel 12 femmes volontaires ont donc bien voulu répondre.
Mais c'est une pièce, on comprend... qui a un point de départ dans le réel, par ses volontaires, par ses mères aussi, qui donnent leur point de vue dans cette enquête sonore, mais le résultat n'est pas, c'est important pour vous, un travail documentaire, donc ce sont vraiment des matériaux qui génèrent une création.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ces interviews, je les traite comme des matériaux sonores et musicaux. Donc moi j'ai fait tout un long travail de chantier avec Carole Rieusec. Voilà, je suis très influencée par la musique concrète. Ces interviews fonctionnent comme des petites bulles sonores qui sont entrecoupées de silence avec des sons concrets et aussi 2 extraits musicaux d'une pièce de Thomas Barrière dans des extraits de guitare. C'est vraiment fait pour créer une temporalité différente, très à l'écoute de ces sons, du grain de la voix. Enfin, vous connaissez ça très bien à la radio, pour que voilà, on entende aussi la multiplicité de ces démarches et de ces états de mère. Parce que répondre à la question « qu'est-ce qu'être mère ?», en fait, on n'a jamais une seule réponse qui soit la même. Et à chaque fois, et j'ai interviewé des gens d'univers sociaux très très différents, notamment des sages-femmes aussi, et à chaque fois, il y a un blanc. Donc ça, c'est pas très radiophonique. Et chaque fois, les mères se disent « mais au fond, oui, c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'être mère ?»
Alors justement, Perrine Morin, il y a une multiplicité de points de vue, mais par contre, chorégraphiquement, le travail que vous avez fait avec la chorégraphe Marie Cambois, ce sont des gestes très quotidiens, des gestes qu'on répète, que les mères, le plus souvent, répètent quotidiennement, des actions qui sont des actions maternantes. Il faut changer une couche, il faut donner à manger, il faut faire un lit, il faut habiller, déshabiller. C'est une danse répétitive, presque, qui amène presque vers une forme de transe. Comment vous faites ce parallèle justement entre la multiplicité des points de vue et ces gestes mécaniquement répétés ?
Alors justement, par le biais d'une scénographie qui fonctionne par vagues et comme des paysages mouvants, c'est-à-dire que être mère, ça s'ancre dans une matérialité très forte. Et en fait, on a fait avec Soumine Park, la scénographe, des choix très très précis, mais en très grand nombre d'objets d'enfants. Donc on s'est appuyé sur des cubes, mais on en a 500 sur le plateau, et des habits qui sont pliés aussi en petits carrés, et on en a 500 aussi. Et donc en fait, la scène démarre, elle est entièrement vide et toutes ces femmes vont progressivement remplir cet espace, donc en vidant des caisses et en déposant sur le plateau et en rangeant tous ces habits. Puis après, elles vont les enlever et après, elles vont mettre ces cubes. Et donc, il y a vraiment un principe de colonisation, de vide, de plein. Et ça permet de travailler sur le geste, mais de manière avec une focale très, très, très précise, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si je prélevais un échantillon de la vie quotidienne, mais je le déplace sur le plateau, je le détourne. Et ça crée, voilà, une sorte de ballet entre multiplicité et unité qui est très fort. Parce que du coup, ça fonctionne sous forme de cœur. Les gestes, en fait, qu'on voit sont des gestes archaïques qu'on a tous vus, au moins nos mères, si on n'a pas d'enfants. Et voilà, il y a un principe de collectif qui se met en place et qui est très fort, en fait.
Merci, Perrine Morin, pour ces quelques éléments qui donnent bien envie de découvrir Un problème sans nom, être mère. Ce sera donc vendredi 1er juillet à la scène nationale de Vendeuvre-les-Nancy. On peut espérer voir ce spectacle se déplacer, peut-être aussi avec d'autres femmes qui y participeraient.
Tout à fait. En fait, dans le cadre d'une autre résidence qu'on va avoir avec le conseil départemental de Moselle, on va faire ça dans une zone rurale qui est le territoire du Saulnois. Et là, on devait reprendre en juin 2017. Et là, avec d'autres interviews, avec d'autres femmes et donc avec aussi toute la problématique de l'isolement dans les zones rurales de ces mères.
À suivre donc. Merci beaucoup, Perrine Morin.
Merci à vous.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Fabienne Pascaud, René Solis, Antoine Guillot, d'y avoir pris part avec moi. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, s'abonner au podcast évidemment. Également, dispute possible grâce à Séam Boutata, Hugo Boursier, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Leduo. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté, je vais quand même arriver à terminer cette émission, qui était réalisée par Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Noémie Luciani et Thierry Chaise, à notre affiche L'effet aquatique de Solveig Anspach et La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt. On évoquera aussi plus rapidement le décalogue de Christophe Kieslowski et tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer. Une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot, les choix du cinéaste Frédéric Wiseman et un nouveau cadeau à gagner. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture à 22h15 hors champ par Laure Adler et dans quelques instants, le journal de la rédaction.